I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, cet épisode spécial où on va parler de cette présentation PlayStation 5. Enfin, on a plus de détails dont on peut se délecter et on va vous les analyser, vous les résumer si vous n'avez peut-être pas vu la longue présentation d'une heure qui a eu lieu il y a quelques heures à peine, puisqu'elle a été présentée en live sur Internet hier soir au moment où on enregistre cette émission. Et on est très tôt le matin, assez tôt le matin, pour vous détailler tout ça et vous le livrer aussi vite que possible. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir d'accueillir les deux co-animateurs que je remercie très chaleureusement de me donner un petit peu de leur temps et de s'être levés. Bon, je vais pas dire à l'aube quand même, n'exagérons rien, mais quand même assez tôt, surtout que la nuit a été longue. Chloé Wattier du Figaro d'une part. Salut Chloé, merci d'être là.
Salut. Salut, écoute, oui, la nuit a été un peu courte hein, entre la présentation, écrire un article, regarder quand même ce que disaient d'Internet, et puis là, maintenant, pouf, le podcast, mais je suis ravie d'être avec vous.
Merci beaucoup. Et on a de l'autre côté, Hugo de Game Next Door. Comment ça va, Hugo ?
Ça va très bien. Ravi une nouvelle fois d'être là dans le rendez-vous jeu. Ça va, moi, la nuit, c'est plutôt bien passé. Je me suis couché juste après la conf. Je me suis levé à 7h. J'ai fait mes petites recherches ce matin. Tu vois, voilà, je suis prêt, je suis dans ma routine, c'est parfait.
Quel professionnalisme. Écoutez,
Oui, toujours, bien sûr.
Je suis très impressionné par votre sérieux. Écoutez, on va diviser nos impressions. Vraiment, on va parler uniquement de cette présentation PlayStation 5. On va diviser nos impressions, peut-être d'abord avec quelques mots généraux, puis on va parler de la présentation en elle-même et de la console, puisqu'elle a effectivement été présentée. Et ensuite, on parlera des jeux first party, peut-être ceux qu'on retient, des jeux des studios PlayStation et puis des jeux d'éditeurs tiers. Avant ça, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, puisque vous le savez, c'est une émission qui n'est rendue possible que par le soutien financier, les sous-sous des auditeurs. Il y a notamment Jeff C. Eger, Totor65, Jules Solinas, Fabien Hannes, Romuald Tavo, Fricazoïde, Superbog, Amael, Yuen et Julien Chandel. Merci à vous tous et à tous ceux qui permettent à l'émission d'exister en donnant un petit peu de leur argent parce qu'ils l'apprécient et qu'ils veulent qu'elle continue. Donc merci à vous tous. Si vous l'appréciez aussi, rendez-vous patreon.com/rendez-vous-jeu, rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Alors, on va donner nos impressions. Peut-être juste avant, si vous pouvez nous donner, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites pour que les auditeurs aient un peu de contexte dans le cas très improbable où ils ne vous connaissent pas déjà. Honneur aux dames, commençons par Chloé.
Ok, alors bonjour, je m'appelle Chloé Wattier. Je suis journaliste pour le Figaro dans la rubrique tech. Et donc, je couvre notamment le secteur des jeux vidéo depuis maintenant de nombreuses années. Et donc voilà, les présentations de consoles, j'avais déjà fait PlayStation 4, enfin c'est toute cette génération-là. Maintenant PlayStation 5, très ravie de voir tous ces changements et de parler de ça avec vous.
Je me rends compte avec stupeur et un petit peu de honte qu'on prononce ton nom Wattier. Je le prononce Wattier depuis des années.
Il n'y a pas de problème, hein, mais les deux sont acceptés, mais bon, moi je dis Wattier, mais c'est vrai que si tu as un penchant nord de la France, tu peux dire Wattier.
Écoute, moi je suis en Finlande, donc c'est tellement au nord que peut-être que ça serait
très très nord, donc tu peux dire Wattier, il n'y a pas de problème.
Super, on a Hugo également, donc tu peux nous dire quelques mots sur toi ?
Oui, Hugo, moi je donne pas mon nom de famille car j'ai peur de l'internet encore. non, je suis le co-créateur donc déjà de l'émission Game Next Door sur YouTube. On fait de l'analyse de game design, donc des chroniques vidéo qui durent entre 15 et 20 minutes. Et puis je suis aussi depuis un petit moment le co-animateur de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, donc avec mon camarade Maxime de Game Next Door et Benoît alias Exerve. Donc on est là, il y a un gros crossover hein, quand même hein, sur cet épisode là du rendez-vous jeu, il y a quête latérale, fin du game, t'as réuni vraiment le haut du panier, donc très content aussi d'être avec vous.
Ça, j'ai oublié de mentionner aussi que je participe au podcast Quête Latérale de chez Qualité, donc avec tous mes petits camarades à qui je fais un petit coucou virtuel.
C'est ce qui me plaît dans cette émission, qui est parfois un petit peu compliqué à mettre en place, mais d'avoir toujours des gens différents et d'avoir des impressions de différents recoins de notre industrie et de nos médias. Donc merci d'être là. Alors, première chose, impression générale, vraiment en quelques mots, hein, pour ceux qui sont pressés et qui n'ont pas le temps d'écouter tout l'épisode. Là encore, Chloé, sur cette présentation qu'on attendait quand même pour donner un peu de contexte, depuis très longtemps, généralement sur la génération précédente, ils avaient tout présenté en février. Là, évidemment, le contexte a fait qu'ils ont peut-être pris encore plus de retard qu'ils ne le pensaient, mais malgré tout, on n'avait pas d'informations. On n'a toujours pas ni la date ni le prix, mais on a d'autres informations. Et c'était du coup, les attentes étaient assez élevées. On avait beaucoup plus d'informations sur la console de Microsoft. Dans ce contexte, donc, tes impressions sur cette présentation qui a duré quand même une heure.
Bah écoute, alors oui, effectivement, très attendu, sur laquelle Sony, je trouve, a fait énormément de pubs. Enfin, moi, personnellement, mon fil Twitter a été inondé de tweets sponsorisés de Sony pour dire que voilà, c'est bon, ils allaient présenter les jeux jeudi soir. Donc bah, je trouve que la conférence, pour dire ça très rapidement, la conférence a été franchement efficace. Il y avait énormément de jeux, c'était très bien rythmé, même si bon, évidemment ils ont réservé le meilleur pour la fin et qu'il y aura toujours des gens pour chouiner genre oui mais il y avait de l'indé et c'est pas ça qu'on veut, alors que si, c'est ça qu'on veut aussi, parce que le jeu vidéo c'est pas que les AAA. Et par contre sur le design de la console, bon, on va en reparler un peu, mais bon, je suis plutôt mitigée pour le moment.
D'accord. Hugo, toi, ton impression générale?
Déjà, ce que j'ai noté vraiment en commençant la conf, c'est qu'on était déjà plus de 800 000 rien qu'au début sur à tout le monde qui regardait cet événement. Donc, c'est quand même énorme. Et je crois que ça a dû dépasser le million si on cumule tous les streams. Donc, c'était vraiment un gros événement très, très attendu. Et puis oui, je pense que Sony a rempli sa mission, on va dire, de nous projeter un petit peu sur cette PlayStation 5 qu'on commençait à attendre. Là, la génération se termine vraiment avec les The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, qui vont terminer la fin de vie de la PS4. Donc, il était temps vraiment pour Sony d'annoncer un petit peu ce qui va se passer à l'avenir. Et je pense que la mission a été remplie.
Je suis
assez... Oui,
vas-y.
Pardon, si je peux ajouter un petit truc. Au tout début, c'est vrai que j'étais un peu mitigée sur la conférence parce qu'il y avait Jim Ryan qui disait « Oui, là, avec la PlayStation 5, il va y avoir vraiment un bond technique, genre le plus gros bond technique jamais vu de l'histoire du jeu vidéo. » Bon, déjà, là, j'étais un peu sceptique. Et c'est vrai que sur les premières images dévoilées, t'avais pas vraiment un effet « Waouh !» qui disait « Ici, c'est la PlayStation 5, ici, c'est la next-gen. » Et je pense que cet effet un peu « Waouh !» il est venu à la toute fin avec Horizon.
Ouais.
Avec la suite d'Horizon Zero Dawn, Forbidden West, voilà, je vais encore oublier comment il s'appelle. C'est vraiment le moment où on dit, voilà, ici, c'est la PlayStation 5. Mais peut-être que les autres jeux dévoilés avant étaient un peu plus... On sent encore qu'on est sur une ambiance PlayStation 4 qui commence tout doucement à aller sur la next gen.
C'est un peu mon impression aussi, j'avoue. J'étais... J'ai fait un petit sondage sur Twitter et là, on a en gros la moitié qui trouve ça très bien, qui a trouvé ça très bien, et la moitié qui a trouvé ça moyen.
Super.
Mais très peu qui ont été vraiment déçus. Et moi, je me situerais au milieu. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs impressionnants. Mais je crois que peut-être que j'attendais quelque chose qui était... On a tellement attendu, en fait. Elle vient tellement tard que j'espérais qu'il révèle tout. Qu'on ait des images, enfin bon, au moins une date précise, peut-être pas le prix, mais des images de l'interface, et puis des images de gameplay. Parce qu'au final, là, on a eu très très peu d'images de gameplay. C'est vrai qu'il y avait quelques jeux qui étaient graphiquement impressionnants, mais dans l'ensemble, une majorité, je dirais, c'était ce qu'on connaît déjà un petit peu avec un plus. Et j'ai trouvé surtout qu'on n'avait pas vraiment d'exemple, à quelques exceptions près, qui montraient les avantages du SSD super rapide qui est censé être le truc qu'a la PlayStation 5. Alors, on a vu sur, et on va repartir dans ces détails, mais on a vu sur Ratchet & Clank, par exemple, certaines images où on passe d'un monde à l'autre, d'une dimension à l'autre, qui clairement changent tellement les environnements qu'il faut avoir un SSD à ce point rapide pour pouvoir le faire. Mais après, quand on a vu le gameplay, bah, il n'y avait plus du tout ça. C'était des niveaux normaux. Donc, Bon, je suis... peut-être que j'attendais trop, mais je suis moins heureux que ce que j'espérais, on va dire. Ouais. Je suis un poil mitigé. Mais continuons à avancer.
Je pense qu'ils en gardent sous le pied, parce que là, bah, il reste quand même deux informations majeures à dévoiler, qui sont le prix. Ça va être l'information. Le prix et la date de sortie, même si on sait que c'est pour cette année, c'est pour la fin d'année. Donc, a priori, si je vous dis novembre, je ne pense pas qu'on prend un gros risque. après, ça va être la question du tarif. Et je pense qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir en montrer beaucoup plus et montrer justement tous les avantages, tous les atouts techniques de la PlayStation, qui pour le moment, ils en ont parlé, mais uniquement dans la presse. Donc, c'était via des interviews à Wired, notamment. Mais on ne l'a pas vu concrètement, tu vois, le fait sur le Spider-Man, ils auraient pu montrer, genre, regardez comme tu peux bouger d'un point à un autre de New York en 2 secondes, alors que normalement, tu aurais dû avoir un écran de chargement sur GTA V aussi, ça aurait été l'occasion de le montrer, que tu peux, voilà, tu peux faire du fast travel ultra, ultra rapidement avec la PlayStation 5. Bon, ça, je pense, tout ça, ils le montreront sur la fin. Mais bon, c'est vrai qu'ils pouvaient... Enfin, si, ils auraient pu, moi j'aurais beaucoup aimé, de tout donner d'un coup, mais on sent vraiment que là, ils veulent vraiment distiller petit à petit.
Après, je pense qu'aussi qu'il faut, il faut de plus en plus nuancer nos attentes par rapport vraiment à un saut de génération. Je pense que c'est de moins en moins perceptible, ça devient de plus en plus étalé. Donc je pense que vraiment, le saut de génération, on le verra peut-être dans 3-4 ans, une fois que les développeurs ont vraiment bien mis la main sur la console, arrivons vraiment à tirer sa puissance. C'est vrai que là, de toute façon, on est sur des jeux qui sont limite entre PS4, PS5. Donc, je pense que c'est compliqué. Moi, j'attends plus maintenant des espèces de grands bonds générationnels. Je pense que ça, elle est finie à cette époque.
À l'époque,
donc, on est plutôt dans la continuité.
32 bits, voilà. 3D, saut à la 3D, évidemment, ça frappait. Mais... et puis, les jeux qui étaient vraiment impressionnants, encore une fois, on va en reparler, mais Horizon, par exemple, il n'a pas de date. Spider-Man, Miles Morales, il sort à la sortie de la console, ou plus ou moins, dans la fenêtre de sortie. Mais Horizon, il n'a pas de date. Donc, bon, bah justement, parlons... je sens qu'on va commencer à partir dans les jeux, mais la présentation...
revenons sur le programme.
la console et la présentation elle-même, d'une part, moi, j'ai trouvé que l'audio n'était pas si impressionnant que ça. J'ai pas vu de... Il disait utiliser un casque pour avoir le truc. Il n'y avait pas de 3D. Alors, peut-être qu'il faut la console et que la super 3D de la console en audio est perceptible qu'avec la console elle-même. Mais là, bon, il n'y avait pas grand-chose qui a peut-être contribué un petit peu, pas ma déception, mais mon mitigage. Et puis la console, le design de la console qui est, on va dire, surprenant. On a commencé à voir déjà des comparaisons avec divers box internet et routeurs. Tu ne m'entends plus, Chloé ? Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, moi, Hugo, tu m'entends toujours, non ?
Oui, moi, écoute, j'ai pas de souci de réception là-dessus.
C'est l'internet de Chloé qui fait des siennes. Et puis, donc, le design un petit peu particulier, qui est moins surprenant quand on met la console à plat, j'ai l'impression. En fait, c'est ce sandwich centre noir avec un liseré bleu et puis le haut et le bas en blanc avec cette courbure, ils sont moins, comment dire, frappants quand la console est à plat, comme la plupart des gens l'utiliseront, je pense. Et puis, au-delà de ça, on a vu les accessoires, une caméra 3D qui pourrait préparer qui est nécessaire pour une compatibilité avec le PSVR, par exemple, une télécommande, machin, et puis surtout, la console en version numérique, qui n'aura pas de lecteur Blu-ray, qui sera sans doute moins chère et plus accessible, qui évoque évidemment la console de Microsoft pour la génération précédente, la Xbox S All Digital Edition. Donc ouais, sur la console elle-même, tu disais avant qu'on commence à enregistrer, Chloé, que tu étais un peu pas sûre de l'aimer encore.
Ouais, bah en fait c'est cette couleur blanche, tout le monde l'a dit, ça fait penser à un modem, ça fait penser à une box, quoi. Et donc ouais, j'ai trouvé ça, je sais pas, on dirait un vaisseau spatial du futur, quoi. Donc c'est un peu spécial, mais c'est vrai que quand elle est posée à plat, tout de suite, je trouve qu'elle reprend un design un peu plus classique Et puis, ben, faut pas se leurrer, une fois qu'elle sera à plat sous l'immeuble télé, on va plus la voir. Donc, donc voilà, même si on peut dire, ouais, le design, il est bizarre. Après tout, bon, il va très, très vite disparaître, sauf si vous la faites trôner dans votre salon à la verticale. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je trouve assez marrant, c'est que Sony, ils présentent toujours leur console à la verticale. Je ne connais personne qui place sa console comme ça chez lui. Mais à chaque fois, c'est toutes les présentations, enfin, sauf la PlayStation 1, mais à partir de la PlayStation 2, c'est toujours debout, 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 debout. Je sais pas, je trouve que ce blanc très, très marqué, j'ai un peu de mal. Bon, après, je trouve que pour le moment, le meilleur design de PlayStation, pour moi, ça reste la 4, l'originelle. Mmh. Je la trouvais vraiment, vraiment classieuse. Mmh. Celle-là, j'avoue, oui, j'ai un petit moment de... Et surtout la version avec le lecteur de disque. Du coup, ça lui fait une sorte de
protubérance un peu.
Ouais, exactement, ouais. C'est une sorte de protubérance
bizarre. De rebond
bizarre,
par-dessus ouais. Qui n'est pas très, très élégant, je trouve.
Tu mentionnais le fait que ça ressemble un peu à un vaisseau spatial, et je suis assez d'accord, et c'est le genre de design qui, je crains, vieillisse assez vite. Mais bon, je ne sais pas si ça sera effectivement le cas, mais ça, je pense que c'est le genre de truc qui vieillit assez vite. Bon, on verra. L'avantage, c'est qu'on peut effectivement la mettre à plat, contrairement à la Xbox Series X, qui, je crois, ne peut pas être mise à plat. Peut-être que
si, tu peux.
Ah, on peut, quand même, d'accord. Okay.
La Xbox, tu pourras la coucher.
Bon, donc on peut coucher toutes les consoles, c'est parfait, je pourrais les avoir dans mon meuble télé. Hugo, ton impression sur tout ça, le design, la présentation?
Écoute, moi je fais partie de la team, le design ne me dérange pas particulièrement, j'aime même plutôt bien la manette je l'aime bien, elle a un côté, ce truc un peu effectivement turfu, vaisseau spatial qui ne me dérange pas du tout. Non, ça va, je suis pas choqué, et effectivement, comme tu le dis, de toute façon, voilà, moi elle va se poser sur mon bureau à côté de mon PC et je vais pas forcément y faire très attention. Mais ouais, voilà, de toute façon, je pense que c'est toujours un peu comme ça au reveal des consoles, on est un petit peu sceptique, voilà, faut que nos yeux s'y habituent, mais après je pense qu'on n'y fera plus attention, et puis de toute façon il y aura certainement un deuxième modèle dans 3-4 ans qui sera peut-être plus affiné, qui ressemblera à autre chose, donc voilà.
Pardon, juste ma petite crainte, c'est au niveau de la poussière, voilà, c'est le côté entretien. Ouais. Je pense que ça va être un attrape-poussière incroyable, et pour retirer, avec tous les bords, les rebords qu'il y a, voilà, ça va être...
Petites interstices comme ça, ouais. qui peuvent être un petit peu dangereuses niveau poussière. Si on a un chat qui traîne dans la maison...
Ouais, bah c'est mon cas.
On entendait le tien tout à l'heure, Chloé. Effectivement, on sent que les poils vont s'infiltrer partout. La manette avait été présentée en blanc uniquement au début, et puis on a vu qu'il y avait une version noire. Ça se trouve, la console existera en noir aussi.
Oui, c'est possible.
Ouais. C'est possible, ouais.
Et puis donc, on n'a pas trop parlé de la version numérique, mais en fait, on n'en parle pas parce que c'est très logique. Ceux qui veulent payer un peu moins cher et qui n'ont pas forcément besoin d'un lecteur Blu-ray, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « j'en ai besoin » et qui, en fait, ne vont pas l'utiliser. Enfin, même pour acheter les CD en physique. Mais il y a plein de gens qui l'achèteront aussi. C'est vraiment une histoire de choix à ce stade. Et le choix d'une console sans média physique est complètement, complètement cohérent. Donc
oui, c'est dans l'air du temps, hein, ce positionnement, de faire deux consoles comme ça, une qui a les CD, une qui ne les a pas. Donc oui, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Ce sera vraiment une question de prix et de priorité par rapport aux habitudes de consommation de tout le monde. Moi, je sais que je suis encore un petit peu attaché à mes quelques boîtes. J'aime bien avoir les gros jeux importants, j'aime bien les avoir, même ceux que j'ai déjà fait ailleurs, j'aime bien les avoir comme ça en physique. Mais voilà, ce n'est pas forcément très important.
Bah, je pense que ce sera important pour les personnes qui sont encore attachées au marché de l'occasion. Devront prendre la version avec lecteur de disque, parce que juste c'est là, ils n'auront pas le choix s'ils veulent acheter des jeux d'occasion, s'ils veulent revendre leurs jeux, et il y en a quand même beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Le choix sera fait directement pour eux.
Aussi peut-être la question de la rétro-compatibilité avec les jeux PS4. Est-ce que voilà, on pourra mettre nos CD, nos Blu-ray pardon PS4 dans la console? Voilà, ce qui est sûr, c'est que sur la version sans physique, on pourra pas le faire. Donc voilà, je sais pas, ils ont pas encore donné vraiment de ligne directrice à ce niveau. Donc est-ce que ça va aussi jouer sur ce critère-là? C'est peut-être possible.
On a également quelqu'un qui disait, je crois que c'était Kassim. Et comment on fait pour prêter les jeux, du coup, avec la version numérique? C'était une belle référence à ce qui s'était passé à la génération précédente, effectivement. Disons qu'on a le choix de prendre une console, une version avec lecteur Blu-ray. Évidemment, c'était une surprise de voir arriver la version numérique, all digital. Et puis, pour le prix, comme tu l'évoquais, Hugo, c'est le plus gros truc. S'ils enlèvent 50 euros de la version sans lecteur physique, c'est évidemment un gros morceau, quoi, parce que le prix va être le champ de bataille de cette génération. C'est évident, comme c'est souvent le cas au lancement des nouvelles consoles. Et là, ça va être à celui qui réussit à faire le prix d'appel le plus élevé, parce que les consoles seront a priori plus chères qu'au lancement de la génération précédente. Et on attend encore de savoir ce qui va se passer avec la version moins chère de la Xbox prochaine génération, sans doute la série S, la Xbox Lockhart, dont on n'a rien entendu d'officiel, mais on a eu beaucoup de rumeurs.
Et encore 50 euros, hein, c'est pas beaucoup hein, comme positionnement. Si c'est que ça la différence, je pense que ce sera un problème. À mon avis, il faudra peut-être faire une bonne différence de 100 euros entre les deux modèles, parce que sinon, je pense qu'il y a peu de gens qui vont vraiment sentir la différence. Mais oui, à voir, hein, c'est vraiment une question. C'est la dernière grosse information qui nous manque hein, avec la date de sortie. Mais comme le disait Chloé un peu plus tôt, voilà, on connaît la fenêtre, mais là, le prix, oui, reste vraiment déterminant.
Si on arrive avec... Du coup, on pourrait imaginer une version avec lecteur qui serait à 499. Moi, j'imaginais 449-479. Comme il y a la version moins chère, effectivement, s'ils mettent à 499 et puis la version sans lecteur à 399, moi, j'ai du mal à l'imaginer, mais peut-être, c'est possible. Et là, ils pourraient dire la PlayStation 5 coûte 399 euros. C'est un chiffre impactant, quoi, mais... Avoir les détails, ces détails-là ne sont pas encore révélés. Eh ben, parlons évidemment de ce qui compte le plus, les jeux, et on va pas faire patienter plus longtemps. On va parler d'abord des jeux first party, et puis il y avait des jeux third party également impressionnants. Avant ça, ils ont commencé avec GTA V, ce qui montre quand même la puissance de Grand Theft Auto, quelque chose de monumental. On l'évoque depuis des mois et des années dans l'émission. Il y a rarement eu un phénomène aussi impressionnant dans le jeu vidéo. La longévité, la durée de vie de GTA V est monstrueuse, évidemment grâce à GTA Online, qui sera disponible gratuitement au moment de la sortie en 2021 pour tous les possesseurs de PlayStation 5, donc la version online uniquement. Et puis le jeu en lui-même ressort sur PlayStation 5, donc il aura été sur PS, enfin génération d'avant, génération actuelle et next-gen, donc PS3, PS4 et PS5, et l'équivalent sur Xbox très certainement chez Microsoft. C'était surprenant parce qu'ils ont passé un long moment dessus, mais ça montre la puissance de la franchise qui s'adresse au très grand public. Et puis, c'était peut-être aussi un moyen de rappeler à quoi ressemblaient les jeux PS4 au lancement pour que, quand on voit les jeux PS5, on se dit « Ah ben oui, quand même, c'est impressionnant !» Et puis après, ils ont ouvert le bal avec quelque chose d'inattendu et de très fort. On imaginait peut-être un jeu Spider-Man ou un jeu Horizon annoncé et puis éventuellement au lancement. Du coup, on a eu Fromage et Dessert. C'était Spider-Man qui sort au lancement de la console et puis Horizon Forbidden West, sans date quand même, mais qui a été présenté et qui est très impressionnant. Donc Spider-Man, c'est Spider-Man Miles Morales qui sort pour les vacances 2020, sans doute autour de Noël ou un peu avant, fin novembre. On ne sait pas si c'est un jeu complet en fait. Il s'appelle Spider-Man Miles Morales. Si ça se trouve, c'est une expérience de 5 heures, c'est pas Spider-Man 2. Mais bon, c'est quand même, ça permet de dire qu'il y a Spider-Man qui arrive sur PS5. Et puis, il était... La cinématique était impressionnante. On a aussi Gran Turismo 7, Ratchet & Clank, qui avait l'air cool. Des trucs dont on n'avait pas entendu parler avant. Returnal, qui a l'air d'être un roguelike, avec, je l'ai noté, un personnage principal qui est une femme qui doit avoir 30 ou 50 ans, quelque chose comme ça, et qui n'est pas spécialement sexy et belle. Et c'est un peu triste que ça me frappe, mais ça m'a frappé. Donc voilà, à noter, je pense. Bon, d'autres choses, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces jeux first party? Changeons un peu, je vais donner la parole à Hugo d'abord.
Qu'est-ce qui m'a marqué Ah mince, je vais tomber dans la blasitude, donc il faut pas que je fasse ça. Non, je pense que...
Mais attends, en fait, c'est des triple A, c'est normal. Toi, t'es
oui, c'est normal.
Super anti-triple A, ils vont pas présenter, tu vois, leur plus gros truc pour vendre à autant de monde que possible en sortant, tu vois, en présentant uniquement Astrobot Adventure ou, tu vois, un truc comme ça.
C'est... Non, non, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je disais en intro que la mission est remplie, parce que de toute façon, voilà, Horizon 2, c'était vraiment celui qu'on attendait. C'était celui qu'on attendait limite au lancement de la console, hein, vraiment comme le marqueur, le line-up pour nous montrer vraiment la prouesse technique, parce qu'on sait que chez Guerrilla, c'est quand même des techos aussi avant tout, donc des gens qui maîtrisent vraiment leur moteur et qui savent tirer parti de la puissance de la console. Donc, c'était logique qu'il soit là. Mais il est là, donc c'est très bien. Et puis, bah voilà, le Spider-Man, c'est vrai, genre, j'y avais pas forcément pensé comme ça, en me disant que ce serait peut-être un petit stand-alone, je suis pas sûr. Mais c'est, voilà, c'est une bonne surprise. C'est cool que Sony surfe sur le succès de Spider-Verse, surtout qu'on sait que ça y est, il y a l'épisode 2 qui est en tournage, en production, donc c'est bien calé. Non, voilà, je suis pas forcément... moi, c'est vrai que chez Sony, les candidats que j'attends le plus, c'est Naughty Dog, c'est Santa Monica, c'est eux, pour moi encore aujourd'hui, c'est eux les gros studios Sony. C'est peut-être eux qui me feront acheter une PS5. Mais voilà, pour un lancement...
Pour préciser, les Uncharted, Last of Us ou...
Et God of War ou des trucs comme
ce
ça.
Genre de
exactement,
trucs.
Exactement, voilà.
Ouais, ouais, d'accord. Je comprends, comprends ce que tu veux dire. Chloé, toi, t'en as pensé quoi de tout ça?
Bah écoute, alors pour le Spider-Man, je pense vraiment que ça sent le stand-alone. Voilà, c'est là. Vraiment, quand je l'ai vu, je dis ok.
Tu veux dire le jeu complet, genre 12,
ouais,
15 heures, 20 heures, quoi.
Ouais, c'est ça, ce sera... Oui, enfin, ce sera un jeu qui sera pas très très long et qui sera construit en grande partie sur le Spider-Man qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Je pense que voilà, ils se sont pas embêtés à refaire tout New York pour l'occasion, parce qu'il est exclusif PlayStation 4, 5 ou il sortira aussi sur la 4?
Non, il est 5. Il est exclusif 5, ouais.
Parce que... Donc voilà. Après, on n'a pas vraiment vu de gameplay. Donc bon, c'est toujours pareil. Hein. Quand on ne voit pas de gameplay, on ne peut pas non plus se prononcer, parce qu'on a l'habitude de nous... mettre mon émerveille. Et après, on est un peu déçu quand on voit la qualité réelle. Ensuite, bon, bah, Horizon, évidemment, bah, ça, j'en avais parlé au tout début. C'est vraiment pour moi le jeu, le trailer qui a marqué tout ce que la PlayStation 4 peut... 5, pardon. Tout ce que la PlayStation 5 peut apporter... Au niveau des graphismes, alors le passage sous l'eau, il m'a rendu folle. Quand qu'elle nage et qu'elle écarte les algues et qu'il y a une sorte de croco, robot croco qui apparaît, enfin, j'ai trouvé ça vraiment sublime. Et toute la direction artistique, elle m'est totalement vendue, donc tout, c'est parfait. Et pour, alors j'avais aussi du coup noté Returnal. Parce que bah, le concept, je le trouve super intriguant. Donc, on va, pour l'expliquer, c'est bon, ça a l'air d'être un roguelike où tu vas mourir plusieurs fois, mais à chaque fois tu recommences. Et elle dit qu'à chaque fois que tu recommences, sa santé mentale est attaquée, qu'elle perd ses souvenirs, qu'elle oublie un peu qui elle est. Donc, je pense que ça peut donner au côté narratif quelque chose d'assez intéressant. Donc, à voir comment ce sera mené. Et comme tu disais, oui, bah, youpi, la next gen, enfin des héroïnes féminines qui ne sont pas hyper sexualisées. Donc très très bien, très très bien, et qui en plus n'ont pas forcément toutes 18 ans, 18 ou 20 ans. Donc ça aussi c'était une bonne surprise. Et voilà, du côté bon, Ratchet & Clank, c'était mignon, mais bon, je suis pas la cible, mais bon, faut reconnaître quand même que c'est bien,
fans, hein.
Que c'est bien, que c'est bien
fans,
qu'il y ait des jeux pour enfants. Non mais voilà, qu'il y a aussi, tu vois, il y avait le Sackboy Big Adventure, enfin c'est quand même chouette de montrer que voilà, PlayStation 5 c'est pas uniquement pour les adultes qui aiment les gros triple A, qu'il y en a aussi pour peut-être un peu les plus jeunes, et vous pouvez être grand et aimer Ratchet & Clank, je ne juge pas. Mais c'est bien, voilà, qu'il y ait aussi des jeux voilà, pour tous les âges. Donc ça, ça, c'est chouette.
Ils ont ratissé large, hein. Ils ont ratissé très large. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était, pour revenir juste une seconde sur la présentation, ils ont ratissé tellement large que du coup, l'impact était moins fort, j'ai trouvé. Ils l'ont approché comme une présentation qu'ils font à l'E3 quand la console est déjà connue et que donc, ils font une avalanche de jeux et on voit... ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut proposer aux joueurs. Alors que là, je crois que si c'était limité à genre 5 jeux dont tous étaient, avaient quelque chose d'impactant, Spider-Man, Horizon, même Ghostwire Tokyo, Kena, Bridge of Spirits, on va en parler dans un instant, le Demon's Souls Remaster qui a rendu des gens fous, Hitman 3, enfin, quelques trucs comme ça, Resident Evil 8, ça aurait été beaucoup plus fort, alors que là, il y avait des jeux où on se disait « Oh, ouais, ça a l'air intéressant, je sais pas trop ». Du coup, ça a aplati un petit peu le truc, j'ai trouvé. Mais
après, c'est aussi la cible, finalement, aujourd'hui, de la PlayStation, de Sony, bah, c'est les adultes, hein, c'est même un peu les darons qui commencent aussi à avoir des enfants. Donc, voilà, je pense que c'est aussi une manière de convaincre vraiment le grand public, de se dire, bah voilà, sur ma console, moi, je pourrais jouer à ça, j'en sais rien, à Resident Evil 8, et mon gosse, il pourra jouer à Sackboy, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, c'est vrai que c'était pas forcément ciblé core gamer très traditionnel, comme on a pu le voir sur certaines conférences Sony. Je me souviens quand il y avait God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, où là, c'était vraiment les jeux qui parlent vraiment à la cible très, très, très gamer. Là, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est le catalogue grand public. Voilà, c'est la promesse sur laquelle on va aller. Et après, je pense qu'ils passeront vraiment la seconde un an ou deux ans après. Mmh.
Je pense aussi, en faisant ça, ils répondent à une interrogation qu'il y a souvent en lancement de génération, c'est: est-ce qu'il y aura assez de jeux? Est-ce qu'on aura de quoi se mettre sous la dent sur les premiers temps? Bon, là, ils ont quand même rassuré. Enfin, il y aura de quoi faire.
C'est vrai qu'il y avait un jeu présenté qui était prévu pour 2022, mais tous les autres, c'était soit fenêtre de lancement, soit 2021. Et même les gros, c'était généralement 2021. À part, encore une fois, je le répète, Horizon Forbidden West. Peut-être qu'au final, il sortira l'année prochaine, mais ils ne l'ont pas précisé du tout. Juste un truc pour mentionner, avec un petit peu d'amertume dans les yeux et la tête, Gran Turismo 7, qui, je suis sûr, fera la joie des fans de jeux de voiture, mais dont, généralement, quand tu veux montrer ce qu'une console a dans le ventre graphiquement, eh ben, tu montres un jeu de voiture, et là, tu montes les lignes épurées de la carrosserie, les réflexions, les machins. Et oui, il y avait des trucs impressionnants graphiquement, mais c'était tous les intérieurs de la voiture, un petit peu fétichiste presque, comme Drive Club à l'époque de la génération précédente, où tu vois vraiment le levier de vitesse en métal avec les réflexions. Mais en jeu, parce qu'on a vu un petit peu de jeu, c'était, on va dire, on a une sorte de, je ne sais plus comment on dit, les retours décroissants, les diminishing returns. Sur les jeux de voiture, j'ai l'impression que la différence de console, de génération et de puissance graphique se voit moins aujourd'hui. Donc sur Gran Turismo 7, j'étais un petit peu, ouais, bon, ok, bah, c'est un autre Gran Turismo, quoi. Bon, il y a d'autres jeux qu'on pourrait mentionner. Je disais Astro's Playroom, qui montre les capacités de la manette, comme le retour haptique, les manettes adaptatives, etc., sera livré avec les consoles. Donc, on aura une sorte de démo de ça qui sera livré avec les consoles. C'est plutôt sympa. Et puis, le fait que Ratchet & Clank, la présentation passait d'une dimension à l'autre, et ça, c'était très impressionnant. J'imagine qu'il y aura de ça dans le gameplay, mais une fois qu'on a vu le gameplay, il n'y en avait plus du tout. Donc ça, c'était un petit peu décevant pour moi aussi. Donc les deux gros trucs, effectivement, c'est Spider-Man, Horizon Forbidden West, qui pour le coup m'a... Enfin, j'ai adoré Horizon, et celui-là, avec les visites de lieux qu'on connaît de l'ouest de l'Amérique, c'est quelque chose qui évoque quelque chose en nous, évidemment. On peut imaginer qu'on ira en Europe pour le 3, peut-être. Imaginez l'Arc de Triomphe à moitié détruit, ça serait impressionnant. Mais oui, donc ça, oui, ça fonctionne super bien. Et puis Returnal, qu'on a évoqué 2-3 fois déjà. On ne l'a peut-être pas mentionné, mais en fait, c'est cet astronaute qui arrive sur une planète alien et qui a ces mécanismes psychologiques qui l'affectent. En roguelike, c'était third person, je crois, troisième personne, ouais. Première personne.
Ouais, c'est du TPS, personne, ouais, j'ai l'impression. Ouais, du TPS.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc voilà pour les jeux first party. Et j'ai pas mis Demon's Souls dans les first party, mais j'étais pas sûr. Je crois pas que c'est un first party parce que c'est Namco qui a les droits. Donc, mais le remaster, remake, remaster, c'est plutôt un remaster, il semble.
Non, c'est un remake fait par Bluepoint. Hein, donc, c'est les personnes qui ont fait Shadow of the Colossus. Donc, alors oui, disons que ça va pas. C'est pas un remake façon Final Fantasy VII,
c'est ça.
Mais oui, il y a une reconstruction, je pense, totale du moteur. Et après, il me semble que c'était une exclue Sony, hein, Demon's Souls. Hein, c'est pas pour rien qu'il y avait Shuei qui nous disait que c'était un jeu cher à son cœur. Namco, tu es sûr? Je suis pas certain, hein, vraiment, là-dessus.
Ah, peut-être que c'était... Je sais plus, mais effectivement...
Parce que c'était Bandai from... pour les Dark Souls. Mais en fait, avant, c'est vraiment... Je crois que c'est une exclue Sony. Hein. Ils sont revenus, en fait, au même deal qu'ils ont fait à Bloodborne après. Donc, non, c'est possible que ce soit une exclue. Hein.
C'était une exclue Sony qu'ils n'ont pas voulu renouveler et du coup, From est allé chez Bandai pour faire Dark Souls. Tout à fait, tu as raison.
Quelle erreur.
Non, et oui,
c'est un peu honteux, mais heureusement, Hugo est là pour me ramener.
On fait attention, hein, on sait que les fans des Souls sont assez patillons, donc voilà, on fait attention.
Et c'est vrai que, bon, du coup, sur les third parties, sur les jeux de tierce partie, il y a énormément de choses à dire, mais Demon's Souls, c'est quand même un gros morceau pour les, parce qu'il y a toute une mystique qui s'est développée autour de ce jeu, qui était à l'origine sorti que au Japon, qui était très obscur, que par la suite, Dark Souls popularisé un petit peu, mais je pense qu'il y a très très peu de gens qui ont joué à Demon's Souls, et donc il a un petit peu cette aura de mystère et de mysticisme qui va du coup le porter avec sa sortie sur PlayStation 5. Et bon, c'était l'un des gros morceaux. Il y en avait d'autres, le Project Atia, qui est pas du tout avancé, qui est un projet de Square Enix, qui pour moi était vraiment une version en jeu de la démo Unreal 5.
C'était oui, un petit peu fait. Ce qu'on avait. Je pensais exactement la même chose.
C'est ça. Il y a Kena Bridge of Spirits qui est développé. Alors, c'est Ember Lab, le studio, qui est un studio fondé par des gens qui ont bien précisé qu'ils avaient un passif dans le film d'animation, et bon sang que ça sent, oui. C'est ça tellement voit, beau. Oui. Ghostwire Tokyo, bien sûr, Godfall qu'on avait déjà vu il y a quelques mois, un jeu de combat l'arme de mêlée de poing, non pas de poing, mais qui a l'air impressionnant, mais bon, on n'en sait pas vraiment assez. Hitman 3, bien sûr, qui a mis en PLS certains des gens dans l'audience. Et c'est marrant parce que Hitman 3, bah, le jeu est évidemment plaira à ceux qui aiment les Hitman. Quand on voyait les cinématiques de présentation, c'était « Oh là là, mais c'est super beau, c'est super cool, c'est impressionnant ». Et puis le peu de gameplay qu'on a vu, j'ai trouvé, comme dans à peu près tous les autres cas, sauf quelques exceptions, Horizon à la limite, peut-être même Resident Evil, c'était du coup beaucoup moins impressionnant, mais bon, passons. Resident Evil 8, justement, présenté, qui lui, pour le coup, sera certainement pas exclusif comme Hitman, qui était une surprise, qu'on sentait peut-être venir, mais on l'imaginait pas là. Et puis Pragmata, qui arrive en 2022, qui est un jeu très bizarre. Il y avait beaucoup de choses très bizarres qui rendent très bien en... présentation cinématique, mais dont on ne sait absolument rien du gameplay. Et j'allais dire, pour appeler les gens à la prudence, que ça me fait penser à Death Stranding, mais du coup, Death Stranding, on ne comprenait rien et ils ont réussi à faire quelque chose qui était au moins intéressant et intriguant et que beaucoup de gens ont apprécié. Donc, c'est peut-être pas un moyen de dire « Ah, bah donc ça va être pourri », mais c'est simplement, moi, il y a plein des jeux qui ont été présentés. Je ne sais toujours pas à quoi m'attendre, je ne sais toujours pas ce que c'est. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vous redonne la parole. Sur ces jeux third party, qu'est-ce qui vous a marqué? Là, je demande du coup à Chloé de nous donner ses impressions. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ah bah écoute, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Alors, si je devais regrouper, alors il y en a deux, je dis oui, même si... je sais très bien que soit je ne vais pas pouvoir y jouer, soit je ne vais pas réussir à y jouer, soit je vais abandonner en route. Donc, Demon's Souls, Voilà, parce que je ne suis pas du tout une joueuse des Dark Souls et Bloodborne, je n'ai pas la patience. Mais quand j'ai vu le trailer au tout début, donc on voit la montagne, enfin tous les paysages, et après on voit vraiment le jeu, mais j'étais happée dans ma télévision en disant « ce jeu m'appelle », il disait « Chloé, viens dans mon monde, t'as l'air super, viens, tu adores, c'est tout ce que tu aimes ». Donc au niveau direction artistique, je suis complètement vendue quand j'ai vu les images, mais c'est waouh. Donc j'ai très envie d'y jouer, mais je sais que je vais souffrir, donc ça, bon. Et pareil pour Resident Evil Village, car visiblement il ne faut pas dire 8. Donc, bah, pareil, superbe surprise. Pendant tout le trailer, j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et quand on a vu que le village se transformait en 8, j'ai hurlé pareil, genre « Ah !» c'est Resident 8. J'ai reproduit les ambiances 3 chez moi.
ouais, on précise sur Resident 8, effectivement, c'est le V-I-L-L, qui est donc en chiffre romain 5-1, et puis les barres du L et du L forment les deux autres 1 pour faire 8, comme avec le 7, c'était quoi Resident Evil, c'était Ville de Evil qui faisait 7. Donc là, ils ont repris le truc pour faire un 8. C'est mignon, quoi. Mais bon, bref.
C'est mignon. Et en fait, bon, tu vois bien, on sent bien l'inspiration Resident 4, parce qu'on est dans un village avec que des gens qui ont l'air pas très, très bien dans leur tête. Pas de zombies, visiblement. Plutôt des monstres, des gens bizarres. Et j'adore Resident 4, mais c'est un jeu qui m'a traumatisée. Parce que justement, un peu trop perché, un peu trop violent psychologiquement, je pense. Et je reste marquée par le château à la fin, avec les mecs, avec les masses d'armes qui te courent après. Enfin, ça, c'est le moment où j'ai dit stop. Pour ma santé mentale, j'arrête.
T'aimes un peu te faire du mal, parce que les deux, c'est des trucs qui
m'ont fait entre les deux. Vrai que
je sais, mais en fait, je sais comment ça va se finir. C'est que je vais finir par donner la manette à mon mari, me dire « joue, je regarde voilà. ». Parce que je ne vais pas réussir. Donc ça, c'est vraiment... Les deux m'ont beaucoup marqué dans des genres très différents. Et là, je sais que je vais pouvoir jouer sans souci. Kena. Bridge of Spirits, donc comme tu dis, bon, les gens qui l'ont fait viennent de l'animation et ça se voit. Il y a une petite touche Disney, je trouve, dans le design de l'héroïne, qui a les grands yeux Disney actuels, et il y a aussi une légère touche Ghibli avec les petits esprits mignons et les grands arbres, etc. Enfin, tu vois un peu les inspirations, mais quand même pour un jeu qui vient de on ne sait pas trop, parce que c'est un studio qui n'est pas connu. Ça envoie du bois quand même. Donc, j'ai trouvé ça techniquement super, impressionnant. Quoi. Pour un jeu, on sent bien qu'il n'y a pas non plus 1000 personnes derrière. Et avec une direction artistique originale. Donc, j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Hein. Pour Kena...
C'était un peu un mic drop, ce jeu. C'est l'équivalent 3D, je trouve, au niveau beauté de Ori.
Ouais, j'ai pensé à ça aussi.
Donc il y a ça, Project Atia, je suis doublement intriguée parce que un, c'est Square Enix et a priori j'aime bien ce que fait Square Enix. Là où je suis peut-être inquiet, j'en sais rien, mais en tout cas c'est Hajime Tabata qui était derrière le projet, mais il en est parti. Donc c'est le réalisateur de Final Fantasy XV. Voilà, on n'a pas vu grand-chose, mais le peu qu'on a vu, j'ai dit... Ça a l'air pas mal, donc mais pareil, ça on ne sait pas quand est-ce que ça sortira, si ça sortira un jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Outworld, quand même, le retour d'Abe.
Il a ses fans, hein, effectivement.
Outworld, c'est toutes mes années collège, quoi. Donc j'avais adoré l'Odyssée d'Abe. Je l'ai fait un nombre incalculable de fois parce que je trouvais que c'était un jeu qui non seulement était très intelligent dans son gameplay, mais aussi intelligent dans son propos. C'est des jeux, ça fait réfléchir. Et voilà, donc là, je suis super, super contente que la licence revienne. En plus, pareil, quand tu te souviens des jeux PlayStation et que là, tu vois le résultat aujourd'hui, tu te dis « Ah oui, quand même, il s'est passé du temps depuis mes années collège. » Donc, celui-là aussi, j'ai très, très hâte. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui m'a... Alors, Ghostwire Tokyo, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi j'étais partie sur ça va être un jeu un peu d'horreur un peu, enfin voilà, c'était pas très très clair ce que ça allait être, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un jeu first person dans lequel on va tabasser des esprits.
Des monstres, des esprits, des fantômes.
Ouais, c'est
dans
vrai
Tokyo.
Qu'il y a eu un gros changement, presque d'intention. Hein, je t'en profite pour aller dessus, mais c'est
vas-y,
vrai que
vas-y.
Moi non plus, je m'attendais pas du tout à avoir quelque chose de. C'est devenu beaucoup plus coloré, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus nerveux. Alors on sent la patte de Mikami là-dessus, mais c'est vrai que ça a vraiment changé. Donc un petit peu mitigé quand même là-dessus, même si je suis toujours curieux de voir ce que ça va donner. Mitigé parce que c'était pas les intentions que j'avais perçues au premier trailer.
Bon, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. T'as l'impression qu'il y a eu. Alors, soit ils nous ont complètement mystifiés sur le premier trailer, soit il y a eu un changement de direction.
Il y a eu Ikumi Nakamura qui est parti entre temps. Donc, c'est possible qu'on le ressente aussi comme ça. Hein. Ils ont dû travailler avec ce qu'elle elle avait voulu apporter au début. Mais voilà, peut-être qu'ils ont fait infuser un peu leur patte derrière.
Oui, et puis c'était quand même il y a quoi 2 ans la présentation. Donc, les jeux évoluent et peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient mieux ou moins bien. Ouais, mais ça a l'air intéressant, effectivement. Disons que ça me fait lever un sourcil quand même, Ghostwire Tokyo. Et puis ça se passe à Tokyo.
Voilà, je pense que c'est la bonne réaction, effectivement.
Deathloop.
Ouais,
quand même,
de Arkane.
Arkane. Ouais. Oh, ça a l'air bien. Ça a l'air très, très bien. Donc, parce que là aussi, on avait vu seulement un trailer d'intention l'année dernière. Là, ça y est, on voit du gameplay. On comprend beaucoup mieux comment ça va fonctionner. Et on dirait une sorte de Dishonored de croisée avec Un jour sans fin. Et donc, ouais, là aussi, je suis vraiment curieuse. En tout cas, pareil, au niveau de direction artistique, je trouve ça original et j'ai vraiment hâte d'en voir plus.
Mais du coup, est-ce qu'on a su si c'est vraiment à 2 joueurs ou on a une partie PVE avec un des personnages qui doit essayer d'aller tuer 8 ennemis principaux et l'autre qui doit l'arrêter? Mais est-ce que l'autre, c'est un joueur ou est-ce que c'est un NPC?
C'est pas clair.
Ouais, c'est pas clair. Hein.
Peut-être que les deux sont possibles et que si tu veux jouer contre quelqu'un, c'est possible.
C'est possible. Ce qui est intéressant, c'est que Arkane, leur dernier jeu qui est sorti, c'est le DLC de Prey, qui était Moon Crash, et en fait, qui lui aussi avait ce délire de mourir. C'était aussi une espèce de roguelite. Là, il fallait pas tuer plusieurs cibles, mais on incarnait différents personnages, et en fait, il fallait remplir différents objectifs pour les libérer, et en fait, il fallait finir en fait les quêtes de tout le monde. Et je me dis que ça a dû sûrement beaucoup servir en fait de laboratoire pour Deathloop, parce que là aussi, il y a 8 cibles. On connaît un petit peu la manière qu'ils de fonctionner sur Dishonored, il y aura peut-être plusieurs objectifs à remplir avant d'atteindre les cibles et peut-être que ça se fera justement au fur et à mesure des morts comme ils avaient pu le faire dans Moon Crash. Donc je pense qu'il y a vraiment un pont qui s'est fait entre ces deux jeux-là. Donc je pense que c'est comme ça un petit peu que ça va se passer.
Bah, du coup, Hugo, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans tout ça, dans tous ces jeux third party?
Déjà, je reviens un peu effectivement sur Resident Evil 8. Pareil, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce sombre délire encore.
Et quand t'as vu Chris, tu t'es dit ok, pas de problème. S'il y a Chris, je joue.
Ouais, non, j'avais pas trop fait attention à ça, honnêtement, pour le coup. Mais c'est surtout que j'ai mis un peu plus de temps que Chloé à percuter, tu vois, le lien avec le 4. Mais c'est vrai que là, en re-regardant le trailer ce matin, j'y ai pensé. On sait que Capcom, ils sont en train de bosser sur le remake du 4. Et en fait, on sait qu'ils aiment, je pense que les deux projets sont faits en parallèle. Et quand on voit l'ambiance de ce Resident Evil 8, toutes les assets, c'est un peu dans la forêt, c'est un peu on sent que là aussi il va avoir vraiment des ponts entre les deux jeux, donc c'est pas si étonnant finalement ce changement d'ambiance quand on sait qu'il bosse aussi à côté sur le remake du 4. Donc voilà, c'est la direction un petit peu que prend Capcom avec Resident Evil sur la prochaine génération. Mais ouais, et puis intrigué de voir des loups-garous dans Resident Evil, je suis pas un expert de la série non plus, mais c'est vrai que c'est surprenant. Apparemment, j'ai vu d'autres petites news, ça va être quand même très axé action, donc peut-être là aussi un petit peu comme Resident Evil 4 pouvait l'être à son époque. Donc ouais, très très curieux. Je sais pas, moi aussi je suis un petit peu team pétoche, donc est-ce que je pourrais le jouer en entier, ça on ne sait pas.
Mais pareil, moi j'ai arrêté moins, le 7, je l'ai arrêté au bout de une
je ne l'ai pas lancé,
juste
voilà.
Pas quoi. C'était juste
moi aussi. Le 7, pareil, j'ai abandonné au bout. Tu sais, quand il y a le père de famille qui commence à te poursuivre, tu te rends compte que t'as beau te planquer, il te trouve. Au bout d'un moment, en plus, je joue au casque, tu vois, histoire de bien fêter. et voilà, j'ai fait bon, ça s'arrêtera là entre nous.
Ouais.
Voilà,
moi, je les admire de loin, ces jeux-là. Ouais, donc quoi d'autre, Hugo?
Quoi d'autre bah moi j'ai aussi vraiment noté donc Stray, le jeu avec le chat là et les robots hein, qui est publié par Annapurna. Bon, moi je suis un peu Annapurna fan hein, entre What Remains of Edith Finch, Outer Wilds. Hein, je sais qu'en général ils mettent de l'argent dans des projets qui sont intéressants. Donc voilà, très curieux de jouer un chat dans une ville. C'est
un
tout
petit
ce qu'on
peu
veut.
Cyberpunk en plus, néon oui. Avec ces robots qui ont des visages, des écrans pour des visages, mais je sais pas, simple, presque bon enfant, c'est ouais, bizarre ouais. Quoi.
Et un chat ouais. Avec un sac à dos.
Ouais,
s'il vous plaît.
Death Stranding va... version chat.
Exactement, livre, ouais, ça va être Messenger, The Cat, The Game.
Tout ce qu'on aime. Et puis j'ai noté aussi, Little Devil Inside, qui était apparemment, enfin moi je connaissais pas du tout ce titre, mais un titre en fait qui a été, là j'ai regardé ce matin, qui a été annoncé depuis plus de 5 ans. Alors peut-être pour remémorer aux gens qui nous écoutent, le passage marquant du jeu, c'était, il y avait un cut, c'était le petit bonhomme, en fait il laissait tomber une bombe dans un précipice, et ça coupait sur un mec qui était aux toilettes, et ça faisait le plouf en fait, qui tombait, je sais pas si vous vous souvenez de ce...
Oui, oui.
Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. C'était très bizarre aussi, mais oui, vas-y.
Et du coup, bah, là, je me suis un peu renseigné. En fait, ça fait très longtemps qu'il est en développement. Il avait même été kickstarté. Et un des stretch goals, c'était de sortir sur la Wii U. Donc, autant vous dire que ça commence à dater. On est dans un autre espace temporel. Mais ouais, un action RPG en open world avec vraiment une... composante un petit peu craft, survie. Là, j'ai regardé d'autres images
mais
de gameplay.
Mais donc, on joue un personnage qui est dans le corps d'un autre et qui combat des trucs dans son corps, c'est ça ?
Ça, je ne saurais pas te dire. Ça, j'ai pas encore, j'ai pas pris le temps encore de vraiment rechercher là-dedans. Effectivement, il y a ces deux personnages, donc ce monsieur un peu plus âgé, un peu noble avec ses grandes moustaches, et un jeune garçon. Je sais pas comment va fonctionner le ping-pong entre les deux, mais ouais, j'ai été assez intrigué, surtout que je trouvais que les animations et l'action fonctionnaient bien. Donc voilà, très très curieux de ce jeu-là. Et puis Chloé a quand même bien fait le tour des jeux qui m'ont marqué également. Donc c'est tout pour moi.
Bah je mentionnerai juste Hitman 3 encore une fois, qui était une surprise et qui va faire très très plaisir à de nombreux joueurs. Ceci dit, qui j'imagine vont y jouer sur PC quand même, mais peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que le public de Hitman c'est plutôt sur PC, mais qui sait.
Ouais, c'est possible.
NBA de 2K21. Dont les graphismes étaient impressionnants. Le joueur avec... Moi, je ne suis pas beaucoup la NBA, donc je ne sais pas quel est le nom du joueur, mais son visage avec la sueur qui tombe, c'était l'un des rares moments où graphiquement, ses présentations étaient impressionnantes. Goodbye Volcano High, qui est un jeu en cartoon presque. Alors là, on parle d'indé, c'est carrément indé. C'est un petit peu un jeu d'adolescent coming of age qui m'a marqué aussi. Mais oui, clairement, les jeux les plus impactants, c'était Demon's Souls et Resident Evil 8, que tu mentionnais, Chloé, dans tout ça. Mais il y en a d'autres qui sont en fonction des publics, qui ont touché leur public, quoi.
Bah, je note que personne n'a mentionné Bugsnax.
Ah, j'ai failli le faire, je me suis dit. Mais c'est tellement bizarre, on ne sait pas du tout ce que c'est, quoi. Mais en même temps, c'est par les développeurs de Octodad, donc forcément, ça...
Ah oui, c'est ça. Tu vois, mon cerveau l'avait même limite éliminé, donc j'ai dû... heureusement que tu as mentionné ça, parce que je me suis... D'accord, très bien, oui. La fraise avec les yeux, ça marche.
C'est ça, oui.
Oui, voilà, c'est le truc où si tu manges quelque chose, ça apparaît sur ton corps. Voilà, c'est ce que
d'accord.
J'ai compris.
Mais en plus, tu manges quelque chose qui est conscient. Genre, c'est des snacks qui sont des bugs, qui bougent et tout. Et c'est un peu genre, tu bouffes la fraise qui était en train de parler juste avant. Moi, ça m'a...
Oui.
Ok.
Ça m'a gêné aussi.
Donc, mais c'était marrant et puis c'est intriguant. C'est vrai que dans l'ensemble, pour le meilleur ou pour le pire, cette présentation, c'était pas un gros coup de poing, genre voilà ce que c'est la PlayStation 5, on vous la met dans la gueule. C'était un éventail qui te montre énormément de choses différentes, qui te les présente et qui dit bah va picorer ce qui t'intéresse. Il y a du gros du gros triple A qui tape, et puis il y a aussi plein d'autres choses, des trucs plutôt enfantins, plutôt indés, des trucs artistiquement vraiment vraiment impressionnants. Enfin, moi l'image de Kena Bridge of Spirits me reste dans la tête, peut-être le plus de tous, parce que ça ressemble à un film Disney ou Pixar ou machin. Je sais pas, j'étais un petit peu amer à la fin de la présentation, et puis plus j'y pense et plus j'en parle avec vous, plus je me dis, ok, en fait, c'était peut-être pas mal, quoi. C'était peut-être ce qu'il fallait, c'était pas directement ciblé sur moi avec une demeure sur Spider-Man et une demi-heure sur Horizon avec des détails de gameplay et puis des sections très précises, mais peut-être que dans l'ensemble, c'était plus ce qu'il fallait.
Bah, ce qui est, tu vois, là, on a une nuit de sommeil. Je pense que ceci, c'est un bon test pour voir qu'est-ce qui nous est resté. sur le matin, on réveille. Ah ouais, on repense encore à tel jeu, tel jeu, tel jeu. Ça, je pense déjà, c'est un bon marqueur comparé à la présentation Microsoft pour la Xbox Series X, parce que eux aussi, ils ont présenté il y a un mois à peu près les premiers jeux, mais eux, tu sens vraiment qu'ils se sont retenus. Et ils avaient surtout présenté du jeu indé ou double A. Ils n'avaient pas vraiment sorti toutes les grosses bombes. Et c'est là, tu vois vraiment le gap entre les deux présentations. Donc maintenant, je pense que Microsoft va reprendre la main et montrer ce qu'il a vraiment sous le coude. Mais voilà, ce qui a été présenté à Microsoft, limite, je ne m'en souviens plus trop. Alors que j'ai trouvé ça beaucoup moins marquant, ce qu'il y avait eu sur la conférence Microsoft.
Moi, ce qui me manquait, limite, j'aurais aimé une petite touche de bullshit, tu vois, genre vraiment juste le logo.
Ah bah c'est un comble quand même.
Non mais juste le logo Naughty Dog avec un nouveau jeu, tu vois, un teaser qui dure même 20 secondes, tu vois, juste dire, voilà, en fait, c'est ça le rêve maintenant pour la PlayStation 5. Et je pense que c'est ça qui... Personnellement, si j'étais communicant, c'est ça que je voudrais envoyer. C'est un minimum quand même de rêve qu'on ait une promesse, en fait, se dire, bon, bah voilà, dans 5 ans, on jouera à ce truc. Et ça y est, maintenant, je peux commencer à l'attendre parce que je sais qu'il existe. Et peut-être que j'aurais attendu ça, ou je sais pas, une nouvelle licence, un truc vraiment fort qui nous fasse vraiment passer dans la nouvelle génération. Peut-être, voilà, un petit peu, tu vois, une espèce de petit bonbon, un peu de rêve comme ça, qui aurait pu donner un peu de panache à rajouter un petit peu de rêve. Mais par contre, ce que je note, ce qui m'a marqué dans cette conférence, c'est vraiment l'intention là qu'ils ont mis en place Sony de réunir leur studio sur le Sony Studio. PlayStation Studio, pardon. Cette espèce d'entité qui est vraiment là pour démarquer les jeux, soit les first party, soit les jeux où c'est vraiment Sony qui finance et qui produit le truc, même si c'est des contractors, des studios qui sont juste employés pour un jeu. Et voilà, ça fait partie de leur stratégie, c'est très important dans leur ligne éditoriale, et on voit qu'il y a cette volonté vraiment de montrer vraiment au grand public, de dire voilà, c'est ça les jeux PlayStation, c'est ça notre marque, c'est ça notre identité. Et je pense que c'est quelque chose qui a été amorcé il y a longtemps chez Sony, mais qui continue de se concrétiser et de s'affirmer au fur et à mesure des générations. Et là, cette présentation allait vraiment, vraiment dans ce sens.
Bah dans les bonbons que j'aurais bien voulu voir aussi, tu vois, ça aurait été genre Final Fantasy Remake, la suite.
Ouais, voilà.
À un moment, j'ai cru que le Square Enix, ça serait ça. Et je me suis dit, non, mais non. Là, ça aurait été parfait, quoi. Parce que Spider-Man Horizon et FF7 Remake 2, bon.
Voilà, mais juste un logo, hein. Même juste un logo. Ouais, en fait, juste nous dire, OK, en fait, mon cerveau, maintenant, il faut qu'il commence à attendre ce truc-là. Je pense que c'est ça qui aurait pu faire passer la conférence dans une autre
dimension.
Hop, dans la petite strate supérieure.
Moi, je suis tellement contre cette idée que montrer un logo pour un jeu qui est nul, mais c'est incroyable que quelqu'un comme toi, Hugo, vienne réclamer un truc comme ça alors que c'est exactement...
Je viens pas le réclamer. C'est je me pose un peu en communiquant, c'est mes études de marketing qui parlent, mais vraiment je me dis j'aurais peut-être ajouté ce petit truc là histoire de cette petite étincelle que les gens se disent ça existe, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à la suite du remake de FF7, mais voilà, c'est aussi là un super bon candidat pour ce genre de petits bonbons. Ouais, tu as raison.
Ouais, parce que l'E3 2015 de Sony, ça a quand même été le plus grand hold-up jamais réalisé.
Exactement. Et pourtant,
on s'en souvient encore parce que c'était fou. Enfin, c'était genre, je suis le Père Noël, je te donne tous les jeux que t'attends. Bon, ils sortiront dans 5 ans, mais...
voilà, c'est ça.
Mais ils sont sortis parce qu'au moment où ils les ont annoncés, c'était, tu as tout à fait raison, c'était le hold-up. Et puis en même temps, on était hyper dubitatif, parce qu'on se disait, mais c'est des trucs, même s'ils sortent, ils vont sortir en 2025, quoi. Et au final, je crois que tout ce qu'ils avaient présenté est là, à ce stade sorti, ouais.
Donc, ouais, c'est ce que je disais, c'est vraiment, moi j'ai l'impression que la page se tourne vraiment avec The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima. Ça y est, c'est les derniers jeux qu'on attendait finalement dans l'écurie Sony, c'était les derniers gros jeux qu'on attend de cette génération. Alors il y a Cyberpunk 2077 qui pour moi va vraiment venir signer la fin de la génération et limite débuter la prochaine.
Si ouais, t'inquiète pas, il reviendra sur la suivante aussi, je suis à peu près sûr.
Exactement, mais voilà, ça y est, c'est la fin et après, bah voilà, c'est vraiment le grand saut et voilà, c'est ouais. La mission est réussie pour nous dire bon bah voilà, la console va sortir. Moi, est-ce que je suis convaincu de l'acheter à la sortie? Non.
Alors c'était ma question justement. J'ai deux questions en fait pour conclure cet épisode. D'une part, est-ce que vous allez l'acheter à la sortie? Et d'autre part, d'une manière plus générale, on est quand même en plein milieu de ce qui aurait dû être l'E3. Et la grande question, c'est est-ce qu'un E3 va revenir? Parce que les éditeurs, on en a parlé à de nombreuses reprises, les éditeurs vont se rendre compte que peut-être ils réussissent à générer autant de hype sans l'E3. Et du coup, bah, ça, c'était sans doute ce qu'aurait été la plus grande présentation autour de l'E3, même s'ils n'auraient pas été présents spécifiquement au salon. Et donc, quelle est votre impression? Est-ce que ça fonctionne aussi bien ou moins bien? Mais d'abord, tu avais commencé à répondre, Hugo, est-ce que tu vas l'acheter à la sortie?
Et bah du coup non, je pense pas que j'achèterai à la sortie. Alors bon, après c'est aussi chacun dans nos parcours personnels, hein. Moi je vais devoir aussi renouveler mon PC, je pense, en fin d'année, donc je ne pourrai pas être sur tous les fronts, mais oui, encore une fois, là dans ce que j'ai vu, moi c'est vrai que je suis pas un immense fan d'Horizon, je trouve que c'est un jeu qui est très efficace, mais c'est pas un jeu qui m'a conquis, on va dire.
Il m'a parlé à Benoît, il a vu la vérité sur Horizon. Donc,
Oui, Benoît a vu la vérité là-dessus. On en reparlera dans fin du game, rendez-vous en fin d'année. Mais non, j'ai pas eu encore ce jeu qui m'a dit OK, il faudra que j'ai une PlayStation 5 pour y jouer et je voudrais y jouer au moment où ça sortira. Donc voilà, j'attendrai. Et de toute façon, en fait, moi, ce qui s'est passé avec la PS4, c'est que je l'ai acheté très tôt et je l'ai un peu regretté parce que finalement, c'est. Il a bien fallu quand même bien 6 mois avant qu'il y ait vraiment des jeux importants qui sortent dessus. Donc voilà, ce sera pas tout de suite. Mais après, bon, pour le travail, il faut aussi. Je pourrais pas attendre non plus trop longtemps.
Chloé?
Ben écoute, moi en règle générale, je suis pas très. Enfin, je déconseille généralement d'acheter les consoles dès leur sortie parce que bah, justement, il y a un problème de catalogue. Généralement, il faut attendre entre 6 mois et 1 an pour qu'il y ait des choses vraiment intéressantes qui sortent. Et là, quand même, la plupart des jeux, voire même la quasi-totalité des jeux qui nous ont été présentés seront des jeux cross-gen. Donc, c'est pas très, très grave, en fait. Si on a déjà une PlayStation 4, on pourra quand même y jouer sur PlayStation 4. Alors oui, il sera peut-être un peu moins joli, mais ce sera quand même
vrai,
pas mal.
De quels jeux tu parles qui nous ont été... Parce que les jeux Sony, ça sera des jeux PS5. J'ai l'impression que la plupart des jeux third party, c'était des jeux
PS5. Je pense que
PS5.
Resident 8 sera cross-gen. Enfin, ils n'auraient aucun intérêt à qu'il ne le soit pas.
Ouais, c'est possible, hein. C'est possible.
Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Bon, ceci dit, il sort en 2021. Donc,
sur PlayStation 4.
Oui, ouais, et peut-être même sur PlayStation 3.
mais c'est vrai que, bon, après, c'est vrai que, bon, avec le travail et tout, évidemment, la PlayStation 5 va arriver rapidement à la maison. Mais si je me place en tant que consommatrice lambda, je me dis, bon, il vaut mieux attendre. Il vaut mieux quand même attendre un petit peu. Et même si, par exemple, on hésite entre une PlayStation 5 et une Xbox Series X. Attendre quelques mois, ça paraît quand même de voir un peu l'horizon se dégager et voir en fait laquelle est la mieux, laquelle correspond mieux plus à ses besoins, correspond plus à ce qu'on aime comme type de jeu. Donc voilà, je conseille toujours d'attendre un petit peu avant de faire qui est quand même un acte financier majeur parce qu'il y a quand même quasiment 500 euros à mettre sur la table. Hein. Je pense qu'on peut
plus avec un jeu certainement.
Donc, voilà, il faut quand même bien réfléchir avant de faire ce genre de dépenses. Et donc voilà, Day One peut-être pas.
Pour moi, c'est un petit peu la réflexion. Disons que je pense que le prix va pas chuter dans la première année. Surtout que, étant donné l'état du marché, ils ne vont pas en produire énormément et la demande va être suffisante pour que tout parte. Donc, je ne pense pas qu'ils auront intérêt à faire baisser le prix, à moins d'énormes accidents industriels comme on en a connu par le passé, mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Le prix ne va pas baisser. Et du coup, même si je me dis que peut-être que je pourrais attendre un peu... Bon, je me dis tant qu'à faire, c'est comme ce que je disais avec la Switch. Si le prix baisse pas, bah autant l'acheter au début et se faire plaisir pendant, si on a les moyens en ce moment bien sûr, et se faire plaisir pendant cette période. Et ce qui vient enfoncer le clou pour moi, c'est Spider-Man. C'est exactement le calcul de Sony. Si Spider-Man est dispo à la sortie ou un mois après la sortie, et que je sais que je l'achèterai dans l'année parce que machin, voilà, et que je sais que le prix ne sera pas différent, bon bah allez, je vais la prendre au début. Et en plus de ça, j'en ai besoin pour le boulot. Donc bon, ça finit d'enfoncer le clou, mais je crois que le clou était déjà enfoncé avec ces réflexions-là. Mais clairement, il n'y a pas un truc... Spider-Man, c'est très cool et je voudrais y jouer, mais il n'y a pas un truc où je me dis, si Horizon Forbidden West, par exemple, sortait à la sortie de la console, là, ça serait oui, c'est le système seller, je me dis tout de suite, ben, je la prends pour ça. Mais dans tous les cas, oui, je crois que je la prendrai avec cette réflexion. Je me demande si je ne suis pas en train un petit peu de vous convaincre que ça vaut le coup de la prendre à la sortie quand même. Tu
veux nous la vendre, hein, j'ai l'impression. Est-ce que...
Non, mais je vous dirai la même chose sur la Xbox. Donc, encore que il y aura moins de jeux exclusifs à la génération. D'ailleurs, il n'y en aura pas au début. Donc,
La guerre des consoles est saine et sauve. Tout va bien.
Très bien.
On continue à débattre. Parfait.
Et l'autre question, du coup, on reprend un petit peu de recul. Par rapport à l'E3, vous pensez que c'est aussi efficace là, comme on le voit, avec des petits événements disparates ou pas? Est-ce que ça fonctionne aussi bien? Est-ce que vous pensez que les éditeurs seront satisfaits?
Je trouve que ce qui manque cette année, ce qui est chouette avec l'E3, c'est que tout est concentré sur quelques jours. Enfin, généralement, ça commence le samedi avec EA et on en a jusqu'au mardi. C'est Nintendo qui clôt avec son direct. Donc tout est concentré sur quelques jours et c'est une sorte de longue fête de Noël. Pour les joueurs de jeux vidéo, il y a énormément d'annonces, énormément de conférences et c'est super chouette. Là, cette année, quand même, c'est très éclaté. Alors, même s'il y a beaucoup de choses cette semaine, il y en aura encore d'autres au mois de juillet. Je pense par exemple à la conférence Ubisoft qui aura lieu le 12 juillet, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Donc, je trouve que c'est un peu dommage que tout ne soit pas rassemblé sur la même semaine. Et après, bon, mine de rien, ça manque quand même qu'il n'y ait pas de salon. Parce que moi, les jeux PlayStation 5, j'aurais bien voulu les essayer. J'aurais bien voulu essayer la manette, voir qu'est-ce que c'est que ce retour haptique, qu'est-ce que c'est que ces gâchettes qui sont plus ou moins sans force, etc. Comment ça se traduit?
Bon, disons que ça, 3D, ils auraient pu inviter des gens, si on n'avait pas la pandémie, ils auraient pu inviter des gens à leur événement spécifique, tu vois, à 3 km du Convention Center de Los Angeles pour les essayer. Donc ça aurait... Mais ceci dit, ça veut dire que les gens seraient là pour le 3. Sony, ils peuvent inviter des gens dans différents pays. Non, mais c'est... Bon. Bref, il y a
le 3, alors certes, il y a nous, la presse, mais tu as aussi le grand public qui, certes, a payé $250 son entrée, mais qui peut également, aurait également pu toucher à la PlayStation 5 immédiatement.
Potentiellement, oui, s'ils étaient à le 3. Hugo, toi, tu trouves que ça fonctionne aussi bien ou...
Écoute, déjà, moi, c'est vrai que j'ai jamais vécu un salon de l'intérieur, hein, et puis bon, malgré tout, c'est
quand
même réservé.
Non, mais même de l'extérieur, hein. Moi, je te parle également de la hype, est-ce que ça... Parce que...
Ouais.
Ouais, de la hype de l'extérieur, quoi, en tant que spectateur.
Écoute, moi, ça me dérange pas particulièrement, en fait. Je sais pas, en fait, je pense qu'il faut attendre d'avoir un peu de recul pour se dire, voilà, est-ce que ça aurait été un fiasco? Est-ce qu'on s'en souvient pas? Est-ce que les jeux qui ont été annoncés, on n'en parle pas? Bah, j'ai l'impression que si, on en parle quand même. J'ai pas l'impression qu'il n'y a pas un effet de buzz qu'il y a. Le fait que ça soit plus étalé, est-ce que c'est pas encore mieux pour tous ces acteurs, pour arriver à se différencier, pour... Je sais pas, moi je suis plutôt partisan d'une communication un peu plus sur la longue durée. Donc non, ça me choque pas. Je suis d'accord sur le côté grande fête. Voilà, moi c'est aussi le festival de la blague. On dit des conneries sur Internet et c'est rigolo. Mais je sais pas, ça me dérange pas. J'aime bien moi prendre un peu le temps comme ça de picorer, de me dire que tous les mois il y a des petites nouveautés. J'aime bien quand on entretient l'actualité de cette façon. Donc non, ça me dérange pas honnêtement.
D'accord. Bah, écoute, moi j'ai l'impression, je suis plutôt sur la ligne, je suis plutôt Team Chloé, et même sans,
oui.
même sans y être présent physiquement, je trouve que la hype générale affecte aussi les événements individuels. Et là, même si l'événement était cool, il n'y a pas ce, on dit en anglais, the rising tides lifts old boats. Mm-hmm. La marée lève tous les bateaux. Donc, quand tu vois, tout le monde bénéficie de ce truc. Et là, je trouve que c'est une sorte de d'épiphénomène qui, du coup, retombe tout de suite après. Et je me demande, bon, au-delà de moi, ce que ça veut dire pour moi, je me demande si ça va se ressentir dans les perceptions des éditeurs et s'ils ne vont pas se dire, ouais, quand même, c'est cool d'avoir un truc qui nous réunit tous. Je crois que c'est complètement subjectif, complètement moi qui ai cette impression. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu, pas la douche froide, mais on se disait, ouais, c'est bon, pas besoin de tout faire ensemble, on peut tout faire de notre côté, on a autant de trucs. Alors Sony, évidemment, c'est les plus gros, mais donc peut-être qu'ils sont un peu moins affectés, mais même, je crois que, de mon point de vue en tout cas, on est en train de se rendre compte que, bah, vu que la hype n'est pas constante sur 4 ou 5 jours, ça monte moins haut avec chaque événement individuel, et donc l'effet est moins fort, quoi. Mais alors, les anti-marketing diront, bah, c'est bien, comme ça on est plus objectif et plus à tête reposée. C'est pas faux, mais pour le plaisir dont parlait Chloé, le plaisir de c'est Noël pendant 4 jours pour nous les gamers, c'est notre Super Bowl, machin, bah, je crois que le buzz fonctionne moins. Donc, je sais pas, on verra.
Je suis d'accord avec toi, et même, tu le vois. Bon, j'ai parlé de ce que je connais, donc c'est-à-dire la couverture presse. Normalement, là, on devrait être en plein semaine E3 sur tous les sites, avec des émissions non-stop, des lives, des papiers dans tous les sens, et un côté un peu événementiel que là, du coup, cette année, on n'a pas.
Et je me demande même si ça affecte pas cette présentation de Sony, quoi. Parce que oui, ils vont avoir tous leurs articles sur la présentation de la console, machin. Mais après, du coup, c'est fini. Et on ne va pas faire, on va pas immédiatement, dans 2 jours, faire un rappel en comparant ce qui s'est passé chez Microsoft ou chez Ubisoft avec Sony. On ne va pas faire le truc un peu ridicule du gagnant de l'E3 et donc on va reparler encore de Sony ou de Microsoft ou de Ubisoft ou de ce que c'est. Je ne sais pas, je trouve que ça, c'est pas la même chose, mais pas juste genre et réflexion de vieux, genre ah, c'était mieux de mon temps, machin. Mais ça a pas la même aura générale qui affecte tous les événements individuels, je trouve. Mais
bon. Non, mais je pense que vous avez raison, hein, c'est le cas. Hein, ça crée vraiment, il n'y a pas cette espèce de semaine un peu magique qu'est l'E3. Mais c'est vrai que je pense, c'est aussi personnel, avec les années, chaque E3, en fait, j'en sors de moins en moins. Je sais pas, hypé, bouleversé. En fait, je suis beaucoup plus branché dans mes jeux du moment. Là, tu vois, ce que j'attends vraiment, bah, c'est jouer à The Last of Us 2. C'est vraiment ce que j'attends, tu vois. C'est les jeux qui vont arriver concrètement.
Les deux sont pas forcément incompatibles.
C'est à ça que je pense. Pardon?
Les deux sont pas forcément incompatibles.
Non, bien sûr que non, mais c'est vrai qu'à titre personnel, voilà, je suis plus ancré là-dedans, et au fur et à mesure, les E3, ça m'impacte moins, donc voilà, je le ressens peut-être différemment. Et puis comme dit, voilà, moi je l'ai jamais vécu dans cette espèce de couverture événementielle et tout. Moi je suis toujours un petit peu décalé avec l'actu, donc voilà, ça correspond aussi à ce que je fais aussi sur mes différents projets. Voilà, je le vis pas forcément de la même manière que tout le reste de la
et c'est ménière. Ce monsieur qui réclame des titres de jeux
annoncés.
Du bullshit, je vois, très bien. Bon, bah super, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce long débrief qui aura duré à peu près le temps de la présentation elle-même. Donc, c'est parfait. Avant de se quitter, évidemment, je voudrais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur l'Internet, Chloé.
Alors, sur les internets, vous allez sur lefigaro.fr, vous cherchez la rubrique tech et ou média, ce que j'écris sur les deux, et vous devriez trouver mes papiers.
Parfait. Je mettrai le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission. C'est Chloé Wattier, si je ne m'abuse, hein, très simple.
Ah non, c'est Wattier. W_Chloé. Car pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Eh oui, comme ça, en plus, les gens ne prononcent pas mal Wattier, mais on n'a pas l'occasion de... Hugo, ton compte Twitter, c'est quoi déjà? Hugo
GND. Alors, mon compte personnel, c'est Hugo GND, tout attaché, c'est facile. Après, pour trouver vraiment le contenu que je produis, bah, c'est simple, vous allez sur YouTube, vous tapez Game Next Door et vous devriez retrouver ma petite bouille. Et puis, sinon, vous allez sur n'importe quelle appli de podcast, celle que vous êtes en train d'utiliser pour nous écouter en ce moment même, vous tapez Fin du Game et vous devriez aussi nous trouver donc l'émission qui va au bout des jeux avec mes camarades.
Excellente émission que j'apprécie beaucoup d'ailleurs.
Merci beaucoup.
Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, où je partage des choses incroyables comme la forêt dans laquelle je vis avec la fibre et
magnifique.
La 4G. Ah, merci. Donc, NotPatrick sur Instagram notamment. FrenchSpin.fr pour les commentaires sur cet épisode. Si vous avez des avis à donner, des choses à nous dire, on est toujours très preneurs de vos commentaires. Et puis, bien sûr, si vous appréciez l'émission, si vous la suivez depuis un moment, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez soutenir mon action d'un média de qualité sur le jeu vidéo, vous pouvez soutenir sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission et vraiment, ça prend 2 minutes. Vous pouvez le faire de votre mobile. Vous donnez ce que vous voulez. Vous vous arrêtez quand vous voulez. C'est un système super cool et ça vous donne en plus des bonus comme l'absence de pub, de promo, des contenus supplémentaires, etc. Donc, patreon.com/rdvjeux si l'émission vous plaît. Merci à tous d'avoir écouté, merci à vous deux d'avoir été avec moi et rendez-vous dans quelques temps. Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.